Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Blondel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Vous allez retrouver évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray, ses stories, et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier et du week-end avec Louise Bernard. Notre infomédia va se pencher sur les vidéos chocs publiées par l'association de protection des animaux L214. La dernière remonte à jeudi dans un élevage de poulets, ces poulets catapultés par une sorte de canon dans une benne. Encore une fois, l'émotion est forte, comme pour chaque vidéo. Mais quel est leur impact? Comment sont-elles produites? Comment arrivent-elles aux grands médias? Toutes les réponses à ces questions avec la directrice et la cofondatrice de L214. Et puis nos invités, la scénariste Angèle Héry Leclerc et le producteur Arnaud de Crémier. Ils démarrent ce soir la 5e saison de la série L'Art du Crime. Une série policière qui ne ressemble toutefois à aucune autre, puisqu'elle s'appuie sur l'art pour résoudre les énigmes et nous cultive l'air de rien. Et en plus, ça marche. D'où la saison 5, d'où notre invitation. Enfin, l'humoriste iconoclaste Jérémy Ferrari, après avoir parlé de la religion, puis de la guerre, son nouveau spectacle Anesthésie Générale désingue le système de santé, spectacle prémonitoire puisqu'il l'avait écrit avant la pandémie. Évidemment, il l'a mis à jour et il le met toujours à jour. Il a déjà vendu 100 000 billets sans faire aucune promo. Toutes ces dates sont complètes jusqu'en mars. Rencontre avec un phénomène. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Le troisième jour de grève à France 24. Le Figaro va-t-il être racheté par Vincent Bolloré? Julie de Bonnat nous parle de son rôle bouleversant pour TF1, au point de lui avoir donné mal au ventre pendant le tournage, physiquement. Et puis Omar Sy tourne pour Netflix. Et France 3 célèbre les langues régionales.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
1, 2, 3, hein, comme la télécommande, TF1 en tête, enfin largement en tête avec le film A Star Is Born. 5 510 000 téléspectateurs, très jolie audience pour TF1, 28,4% de part d'audience. Deuxième France 2, donc avec un film là aussi, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. 2 940 000 téléspectateurs, 13,2% de part d'audience. Et puis troisième, la série danoise Les Enquêtes de Dan Sommerdad, en hausse pour la deuxième semaine, en 2 630 000. C'est 200 000, un peu plus de 200 000 de plus que la semaine dernière, 11,8% de part d'audience.
Et puis comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end, mais on commence par celle de samedi soir.
C'est le rugby et l'exploit des Bleus face à la Nouvelle-Zélande, hein, qui a attiré le plus de téléspectateurs devant la télévision. 6 300 000 réunis devant France 2. Excellent score pour les Bleus et pour France 2. Bien plus que sa cousine France 3 qui proposait le téléfilm Meurtre dans les Trois Vallées avec Lynn Renault et Samuel Labarthe. Bon, ça a quand même rassemblé 4 400 000 téléspectateurs. Ah oui, et puis 3e marche du podium pour les Energy Music Awards avec une audience un peu décevante pour cette cérémonie cette année. 4 100 000 téléspectateurs devant TF1. C'est 1 million de moins que l'an dernier.
Et puis on remonte encore un peu dans le temps. Qu'ont regardé les Français la veille, c'est-à-dire le vendredi soir?
Pas de surprise, hein, c'est encore une fois la puissante Capitaine Marlowe qui était en tête avec ses 4 750 000 téléspectateurs devant un épisode en rediffusion. Beaucoup plus que la demi-finale de Danse avec les Stars sur TF1 et ses 3 470 000 téléspectateurs. Mais c'est une audience stable, hein, quasi identique à la semaine dernière. Et puis troisième, Stéphane Plaza, qui permet à M6 d'attirer 2 millions de téléspectateurs avec son émission Maison à vendre.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec la grève qui se poursuit à France 24 aujourd'hui.
Troisième journée de mobilisation pour la rédaction de la chaîne internationale. La reconduction de la grève a été votée vendredi par 60% des salariés et des pigistes réunis en Assemblée Générale. Non convaincus par la rencontre entre la direction et une délégation de la rédaction, des propositions ont été faites, mais jugées pas assez satisfaisantes. La rédaction proteste contre le manque de moyens et un management qualifié de toxique. Nouvelle Assemblée Générale cet après-midi pour décider de la poursuite ou non du mouvement.
Dans l'actualité des médias également, Vincent Bolloré va-t-il racheter le journal Le Figaro?
Il aurait entamé des négociations pour prendre le contrôle du quotidien, c'est ce qu'affirme Mediapart dans une enquête publiée samedi. Le site d'information évoque des tractations secrètes entre Vincent Bolloré et la famille Dassault, propriétaire du Figaro, car le groupe de presse lui coûterait de plus en plus cher, au point d'envisager de s'en séparer. Mediapart cite des sources internes précisant que ni Vincent Bolloré ni la famille Dassault n'avaient souhaité répondre aux questions de son journaliste. Il a fallu attendre quelques heures après la mise en ligne de l'article pour finalement avoir une réaction, celle de la famille Dassault. Le conseiller en communication du groupe parle d'intox total. Il n'est pas question de se séparer du Figaro, tandis qu'un porte-parole de Vincent Bolloré a refusé, lui, de commenter cette information.
Notre focus programme du jour, c'est TF1 qui propose ce soir le téléfilm Service volé, adapté d'une histoire vraie.
L'histoire d'Isabelle de Mongeau, joueuse de tennis violée pendant 9 ans par son entraîneur de ses 14 à 23 ans. Le film revient sur son combat judiciaire et celui pour être entendu, être cru, notamment par son entourage. Et pour incarner Isabelle, l'actrice Julie Debona, bien connue des téléspectateurs de TF1, puisqu'elle a joué dans de nombreuses fictions hein, comme Le Bazar de la Charité ou plus récemment Plan B. Pour préparer ce rôle, Julie Debona a lu le livre d'Isabelle de Mongeau et surtout l'a rencontrée. C'est une source d'information plus puissante qu'un scénario, forcément, pour bien saisir ce que la joueuse de tennis a pu endurer, se mettre à sa place, comprendre ses sentiments, ses difficultés. Et jouer une histoire vraie, c'est un exercice passionnant pour une actrice, d'après Julie Debona, mais c'est aussi beaucoup plus impressionnant que la fiction.
Nous, les acteurs, on fait de la fiction pour divertir, pour raconter des histoires, mais souvent nos personnages sont imaginés, imaginaires. Ça nous laisse une liberté créatrice et ça reste un peu poétique. Et là, j'avais tellement envie de respecter Isabelle de Mongeau, son drame et son histoire, que ça met une pression parce que je voulais m'approcher au plus de ce qu'elle a vécu et ne pas la trahir. Il y a des scènes qui sont plus difficiles que d'autres à jouer parce que, par exemple, l'annonce à la famille, c'est une violence extrême. En tout cas, moi, je l'ai joué, ça a duré 3-4 heures. La scène, parce qu'on doit faire beaucoup de prises et ça me faisait mal au ventre. J'avais vraiment mal physiquement.
Et ce qui a marqué Julie Debona dans l'histoire d'Isabelle de Mongeau, c'est notamment cette double peine, avoir été violée pendant 9 ans, subir un traumatisme. Et quand elle réussit à en parler, à le raconter des années après, hein, les faits étaient alors prescrits, elle doit sans cesse répondre à une question. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Des années à devoir se justifier en plus du combat judiciaire, des années passées aussi à alerter sur les violences faites dans le sport. Alors l'actrice espère que ça pourra aider Isabelle de Mongeau à aller vers la résilience, ce film.
Je pense que c'est quelque chose qu'elle porte depuis des années maintenant, depuis la fin du procès. C'était communiquer, instruire, comment faire évoluer les choses dans la mentalité du sport, dans la fédération, comment les gens peuvent mieux protéger leurs enfants. Elle était vraiment dans ce combat-là depuis des années. Et donc le film est là, maintenant c'est diffusé et j'espère que ça va la libérer et qu'elle partage cette responsabilité avec les autres maintenant. Parce que maintenant ça va être dit, acté. Et donc c'est un film fort à ce niveau-là pour ça, pour qu'elle lâche le combat, elle n'est plus seule, on l'a entendu, on en a fait un film, et maintenant c'est diffusé dans les foyers. On a envie de lui dire qu'elle peut vivre tout court.
On est diffusé ce soir à 21h05 sur TF1, ça s'appelle Service volé.
Là, il s'agit de pure fiction. Omar Sy annonce être en tournage pour Netflix.
Il renfile sa casquette en tweed et son long manteau pour incarner à nouveau Hassan Diop. Vous savez, c'est son personnage inspiré des aventures de Lupin. L'acteur vient de commencer le tournage de la partie 3 à Paris. C'est ce qu'il a annoncé en postant un selfie sur les réseaux sociaux avec la tour Eiffel floue en fond. Avec un commentaire, c'est bon d'être à la maison. Une suite très attendue dans le monde entier. Lupin est quand même la 3e série la plus vue de l'histoire de Netflix.
Et on termine avec le chiffre 3. France 3 qui met à l'honneur les langues régionales toute la semaine.
Avec une programmation spéciale sur les antennes régionales, des films, des documentaires, des dessins animés, l'information ou même la météo en langue régionale, alsacien, breton, corse, occitan, provençal aussi et bien d'autres. Encore plus de programmes que d'habitude car en réalité France 3 diffuse déjà toute l'année, hein, 2160 heures en langue régionale en 2020 par exemple.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média, c'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
Kenavo, comme on dit chez moi.
Magnifique. Dans un instant, sur Europe, c'est notre info média du jour. On va revenir sur les images chocs publiées régulièrement par l'association de protection des animaux L214. La dernière en date, c'était jeudi. Elle présentait les conditions de vie épouvantables d'un élevage de poulets avec un canon à poulet, mais pas seulement. Comment sont produites ces vidéos? Quels sont leurs impacts sur la société? On en parle avec Brigitte Gauthier. C'est la présidente et la cofondatrice de l'association.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Des images chocs, des images insoutenables de poulets trop gros pour leur âge, pour pouvoir marcher, des poulets qui gisent sur le sol d'un entrepôt, qui ne verront pas la lumière du jour et qui vont terminer aspirés par une moissonneuse avant d'être expulsés par une sorte de canon dans un camion direction l'abattoir. Ces images ont été publiées la semaine dernière par l'association de protection des animaux L214. Ces images ressemblent aux très nombreuses autres vidéos publiées par cette même association depuis des années qui font cumuler des millions de vues et qui suscitent auprès du public une vive émotion. Mais ces vidéos servent-elles, je vais arriver à le dire, vraiment à faire changer les choses? Et quelle stratégie surtout, pour quelle diffusion? Bonjour Brigitte Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes la directrice et cofondatrice de l'association L214. D'abord, ce terme L214, est-ce que vous pouvez l'expliciter?
L214, en fait, on s'est servi du code rural qui, en 1976, reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles et, très important, qu'ils doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Et si on regarde cet article-là, du coup, on peut se rendre compte que la majorité des animaux aujourd'hui sont élevés dans des conditions qui ne respectent pas cet article, puisque 8 animaux sur 10 qui arrivent dans les abattoirs sont dans des élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages qui ne leur laissent aucun accès au plein air.
Et cet article-là porte le matricule L214. Vous avez publié une enquête jeudi dernier avec vidéo à l'appui dans les coulisses d'un élevage intensif de poulets de la marque Le Gaulois Groupe LDC. Qu'a montré votre enquête ?
Notre enquête, elle montre que finalement, LDC, la question du bien-être animal, c'est une opération de communication et non une réalité pour les animaux. Alors évidemment, le bien-être animal, c'est un concept qu'on a inventé qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'on essaye de mettre des animaux dans des conditions un peu moins pires, puisque l'objectif au final, c'est toujours de les mettre à mort pour pouvoir les manger. Alors qu'aujourd'hui, on peut rappeler qu'on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, voilà. Et souvent, les entreprises s'en servent comme argument de vente pour essayer de rassurer les consommateurs qui, évidemment, ne souhaitent pas manger des animaux qui ont vécu dans des conditions terribles. Sauf que la réalité, c'est 3 millions d'animaux tués par jour et une grande majorité qui vient d'élevages où ils n'ont pas eu accès au plein air, où ils sont sélectionnés génétiquement comme ces poulets avec leur tête de poussin sur leur corps de poulet.
Ils sont sélectionnés pour grossir plus vite, évidemment, pour que ce soit plus rentable.
Pour grossir plus vite, pour d'autres, c'est pour faire plus de lait, plus d'œufs, plus de chair. On a toutes les configurations. Ils sont mutilés pour la plupart des animaux. Les poules pondeuses, on coupe le bec. Les cochons, on va leur couper la queue, on va leur limer les dents. Donc on essaye d'adapter en fait, les animaux à des conditions de vie hostiles. Et l'objectif, c'est d'en mettre le plus possible dans le moins d'espace possible.
Ouais, nous, on pensait que c'était interdit, mais pas du tout. On voit toujours ces images. Vous parliez de cochons. Ce genre d'images, je vais généraliser. On a l'impression de les voir systématiquement depuis plusieurs années déjà. Combien d'enquêtes publiez-vous par an ?
On en publie un peu plus d'une dizaine par an avec justement l'objectif d'essayer de toucher les médias. Mais après, on en sort plus que ça sur les réseaux sociaux.
On va parler de la deuxième partie de votre phrase. L'objectif est de toucher les médias. Vous avez démarré en quelle année ? En 2004, c'est bien ça ?
Alors en 2003-2004, on a créé Stop Gavage et on se concentrait sur la production de foie gras. Et effectivement, à cette époque-là, on n'était pas du tout... on travaillait à côté. Et c'était en plus en travail bénévole qu'on faisait ça. Et en 2008, en voyant que juste avec des tout petits moyens, on arrivait quand même à intéresser les journalistes qui étaient intéressés par notre travail d'enquête finalement, puisque notre travail d'enquête, il y a évidemment les images, mais il y a aussi tous les dossiers qui sont derrière, renseignés quand on montre des images d'élevage de cochons, avec ces truies qui sont enfermées dans les cages ou les petites têtes à travers les barreaux, on est capable de dire aujourd'hui que c'est 95% des cochons qui sont élevés de cette façon-là, parce que justement, on a fait un travail derrière documentaire. Donc tout ce travail, on voit que ça a intéressé les médias, que notre expertise a permis de mettre à jour une production, la production de foie gras, qui est quand même la seule qui consiste à rendre malades les animaux pour leur faire produire du foie gras, donc une stéatose hépatique, maladie qu'on mange. Et en voyant ça, en 2008, on a créé L214. Et là, pour le coup, on a dit, on va essayer de dégager du temps à des gens pour se consacrer entièrement à la question animale. Et évidemment, notre objectif, ça va être à la fois de nous adresser au grand public, mais aussi aux entreprises et aux politiques. Et pour ça, effectivement, on s'adresse aux médias.
Alors justement, on est ici une émission média. Comment vous les contactez ? À savoir les chaînes de télévision, parce que je précise que maintenant, ça passe par les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes lancé, les réseaux sociaux n'existaient pas. Mm-mm. Est-ce que c'était facile ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce qu'il y avait des gens qui renaclaient ? Comment ça s'est passé, les premiers contacts ? Et comment ça se passe ? On parlera après de la deuxième partie.
Alors les premiers contacts, ça a été du un par un. Et puis petit à petit, en fait, en voyant le sérieux de nos enquêtes, la matière qu'on pouvait amener, les preuves, les sources, on a développé effectivement des journalistes qui avaient confiance, qui continuaient de vérifier, hein, mais qui avaient confiance dans les informations qu'on amenait. Et c'est comme ça qu'on a créé petit à petit un réseau de journalistes auxquels on peut envoyer nos informations en avance par rapport à nos sorties.
À l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et donc où beaucoup de filtres existaient encore, est-ce que parfois des rédactions ont refusé de diffuser des images parce qu'elles étaient trop dures ?
Alors encore aujourd'hui, je dirais, les images, elles sont floutées à l'extrême. Parfois, on ne voit même plus les images, c'est juste un carré flou.
Oui, mais pas sur les réseaux sociaux.
Voilà. Alors sur les réseaux sociaux aussi, mais dans les médias aussi, vous avez des chaînes qui peuvent... Alors, il y a certaines chaînes qui ne diffusent pas les images tout simplement parce que c'est trop horrible, parce qu'on a déjà vu, parce que tout un tas de raisons. Hein. Nous, on propose, après, les médias disposent. Et puis, effectivement, il y a souvent... les images les plus terribles ne sont pas passées, notamment en ce qui concerne les abattoirs, hein, puisque regarder des animaux mourir en face, c'est extrêmement difficile, que ce soit fait selon la législation en vigueur ou que ce soit en dehors de la législation, puisqu'on montre les deux. Et donc, du coup, ça dépend des médias.
Je suis d'accord. Et je vous pose la question avec d'autant moins de gêne qu'ici, on est à la radio. Donc, la question ne s'est pas posée de savoir
exactement
si on les diffusait ou si on ne les diffusait pas. Mais juste pour dire, ces images de poulets sont absolument insoutenables. Vos vidéos sont des enquêtes, mais vous n'êtes pas journaliste, vous le dites vous-même. Mm-hmm. Comment menez-vous vos investigations ?
Eh bien, là-dessus, on va rester quand même assez discret sur comment on les mène. Je peux raconter quelques événements dans le passé, mais on a quand même comme menace, comme épée de Damoclès au-dessus de la tête. La cellule Déméter, qui porte fort mal son nom, qui est une cellule issue d'une convention passée entre Gendarmerie nationale, ministère de l'Intérieur et puis deux syndicats agricoles extrêmement puissants et qui défendent le productivisme, l'élevage intensif, notamment l'agriculture industrielle, que sont la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Mmh. Et l'objectif de cette cellule, c'est de mettre sous surveillance les activistes, les personnes, les associations.
Pardon, ça c'est votre lecture. Ils disent pas notre objectif est de mettre sous surveillance les activistes. C'est quoi l'objectif avoué ?
Ah bah si, l'objectif. Non, c'est écrit dessus noir sur blanc. D'un côté, il y a 15 000 vols de GPS, de tracteurs, etc. pour lesquels on n'est pas concerné. Et puis de l'autre côté, il y a des actions qui sont dénoncées, des actions même d'information qui sont dénoncées pour dire quand on critique le modèle agricole actuel, on fait de l'agribashing, hein, qui a été un terme propulsé par la FNSEA, pour éviter finalement toute critique du modèle agricole.
Ensuite, ces images, comment les obtenez-vous ? Comment vous parviennent-elles ? Est-ce que c'est vous qui les filmez ? Est-ce que ce sont des relais qui vous les donnent ? C'est la réponse dans la deuxième partie de Culture Média. Nous sommes avec Brigitte Gauthier, fondatrice et directrice d'L214. A tout de suite dans Culture Média.
Le point Leclerc.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Brigitte Gauthier, fondatrice et directrice de l'association L214, association de défense des animaux. C'est cette association notamment qui fournit aux chaînes et aux réseaux sociaux des images parfois terribles de ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs qu'on ne voit jamais évidemment dans les émissions habituellement. Pour avoir justement ces images choc qui vont atteindre les médias, qui vont atteindre le public, il faut pouvoir les filmer. Comment faites-vous pour les avoir ? Ce sont des équipes à vous, ce sont des complices ou les deux ? D'où viennent ces images ?
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails comme j'ai dit juste avant, mais par exemple, je peux évoquer Mauricio Garcia Pereira, qui était ouvrier à l'abattoir de Limoges depuis 6 ans, et qui, quand il a vu les premières images justement médiatisées d'abattoirs qu'on a montrées, a dit « mais chez moi, c'est pire, je vais vous montrer l'abattage des vaches gestantes, celles qui attendent des petits ».
Et là, on est en quelle année ?
Là, on est en 2016. Il y a eu Grégory cette année qui a montré comment les cochons à Trembla étaient élevés, les coups de tournevis, mais aussi juste structurellement l'élevage sur caillebotis et tout ça qui est terrible pour les animaux, la coupe des queues, etc. Et puis on a eu Thomas qui s'est infiltré dans l'abattoir Bigard de Cuiseaux et qui a pu montrer les conditions d'abattage, mais aussi dénoncer les carences des services de l'État, des contrôles de l'État. Donc voilà, ça fait un petit panel.
Est-ce que, comme des journalistes que vous n'êtes pas, est-ce que vous revendiquez, vous contactez toutefois les personnes mises en cause, c'est-à-dire les groupes de l'agroalimentaire, pour entendre leur version des faits avant publication ?
Alors, quand on relit, comme par exemple, c'est le cas de l'enquête LDC, effectivement, on a écrit à LDC pour leur demander un engagement pour arrêter les pires pratiques d'élevage et d'abattage des poulets. On n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu d'engagement. Et donc, dans ces cas-là, on a des contacts avec les entreprises pour leur demander des avancées. ce qui a donné.
Non, est-ce que vous avez prévenu, par exemple, la société Le Gaulois que les images allaient sortir jeudi dernier?
Non, parce que ça, on le faisait dans le passé. On l'a fait en 2013, et puis on s'est retrouvé devant les tribunaux en référé, et puis on a eu interdiction de publier les images. Donc, on ne le fait pas. Maintenant, on publie. Et puis, ensuite, on peut discuter sur la base des images, mais les groupes sont tellement puissants. L'industrie de la viande, il faut savoir qu'elle est extrêmement puissante. Maintenant, on obtient des avancées.
Ce qui est très étonnant, c'est que les Français soutiennent vos causes et massivement. Sondage paru dans le JD en octobre dernier, c'était l'IFOP qui avait interrogé les Français autour des mesures phares proposées par Yves Jadot. L'essentiel est ceci, la sortie progressive de l'élevage industriel est plébiscitée par 82% des Français. Mmh. Pourquoi on n'en sort pas, d'autant qu'entre-temps, par rapport à vos débuts de l'association, il y a l'iPhone qui est arrivé, c'est n'importe quel employé peut filmer.
Tout à fait.
Pourquoi les entreprises ne changent pas leurs pratiques, ou à la marge, ou si peu, ou si lentement?
C'est une bonne. Il faudrait demander au syndicat agricole majoritaire, mais quand on rencontre les éleveurs, on est en contact avec beaucoup d'entre eux, ils nous parlent des coopératives qui décident tout, ils nous parlent de leur endettement auprès des banques pour des dizaines d'années, et donc du coup un système qui a du mal à se remettre en cause, mais qui se remet en cause quand même. Quand on a commencé avec L214, 80% des poules pondeuses étaient détenues dans des cages. On a fait des campagnes, on s'est adressé aux politiques, fin de non-recevoir. On n'a quasiment rien obtenu, sauf l'interdiction des nouvelles installations, mais qui actait déjà l'existant. Par contre, on s'est adressé aux supermarchés, aux fabricants, à l'hôtellerie-restauration et aux producteurs. Et là, le chiffre de 80% en 2008 est passé à 36% aujourd'hui, et les engagements courent jusque 2025. Donc en 2025, normalement, l'élevage en cage des poules pondeuses va disparaître. Pour les poulets, on a obtenu l'engagement de tous les supermarchés déjà. Donc ça, on peut participer en s'inscrivant sur L214.com. On a les actions express, et c'est par cet intermédiaire-là qu'on peut réussir à convaincre les entreprises de bouger.
Brigitte Gauthier, vous n'êtes pas la seule à lancer des pétitions en ligne. Il y a une pétition qui demande la dissolution de votre association sur change.org, publiée par un compte Paysans de France, 16 000 signatures. Yassé de ces animalistes présentant les éleveurs comme des tortionnaires, des gardiens de camps de concentration, je cite, le personnel des abattoirs comme des assassins et les consommateurs de viande comme des zoophages. Cette idéologie porte en elle-même des germes idéologiquement très dangereux et non démocratiques, dit l'association. Je ferme les guillemets ici. Et la journaliste du Point, Géraldine Vosner, a commenté la création de cette pétition sur Twitter. Elle dit « Les victimes de cette nouvelle forme de terrorisme se rebellent ». Et voici ce qu'elle disait en décembre 2020 à propos de votre association, vidéo publiée sur le site du Point.fr.
La sidération, c'est un élément essentiel de la stratégie de L214. Vous recevez des images atroce, et il faut que l'émotion soit immédiate. Cette émotion annihile la raison, elle vous empêche de prendre de la distance. La dernière vidéo d'L214 met en scène un élevage de cochons dans l'Allier. Elles sont extrêmement choquantes, on voit des bébés sanguinolents, on voit des porcs entassés. Le problème, c'est que ces images ne nous disent pas grand-chose. Par exemple, on sait que des truies ont déporté en moyenne de 12-15 porcelets. La mortalité naturelle, elle est de 10% chez les cochons, dans n'importe quel type d'élevage.
Qu'avez-vous à répondre à vos détracteurs? C'est qu'un exemple de critique qui vous est faite.
Là, on a affaire à des communicants, finalement, au service de l'industrie de la viande. Donc, évidemment, ils ne vont pas trouver l'action qu'on peut avoir.
Là, ce n'est pas des communicants, c'est Géraldine Vosner, c'est les journalistes, hein,
oui,
c'est pas une communicante du tout.
Paysans de France, c'est Olivier Mével, c'est un communicant des filières qui est payé par les filières, donc il a intérêt à justifier son salaire en faisant des choses.
Ça, c'était la pétition. Et sur l'argument de Géraldine Vosner?
Alors, il est faux, d'autant qu'elle a commenté effectivement l'élevage de cochons préférence ERTA. Donc, ERTA qui vous dit qu'en matière de bien-être animal, ces élevages préférence, ils sont quand même le haut du panier. Il y a des efforts qui sont faits. Et donc, décembre, elle a ses paroles, effectivement, en disant « sidération, machin ». Effectivement, les images, elles sont choquantes, mais justement, elles appellent la raison, elles appellent à regarder, à fouiller, elles attirent l'attention sur quelque chose qu'on ne montre pas. Est-ce que ERTA va montrer les 10% de mortalité naturelle, entre guillemets, dont elle parle? Non, jamais. Est-ce qu'ils vont montrer ces truies dans les cages à téter à travers les barreaux? Jamais. Est-ce qu'ils vont montrer la coupe des queues, la castration à vif et tout ça? Non, jamais. Donc effectivement, il y a sidération parce que personne ne sait ce qui se passe derrière les murs des élevages et des abattoirs. Mais nous, on ne s'arrête pas à la sidération. On propose des solutions. Alors des solutions à court terme, réduire les souffrances des animaux aujourd'hui et démocratiser l'alimentation végétale. Et puis on a quand même comme objectif de dire les animaux, on pourrait les considérer autrement comme de la nourriture et en faire des cohabitants de notre planète. Et donc on propose plein d'actions, plein de solutions sur notre site L214.com.
Merci beaucoup Brigitte Gauthier. Je rappelle que vous êtes directrice et cofondatrice de l'association L214. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci.
Dans un instant, sur Europe 1, tout autre chose, on va parler de la série L'Art du Crime sur France 2, série policière qui ne ressemble à aucune autre puisqu'elle s'appuie sur l'art et l'histoire de l'art pour résoudre des énigmes. Elle revient ce soir pour une cinquième saison, c'est-à-dire que ça marche. Nous serons avec le producteur de la série, Arnaud de Crémier, et la scénariste Angèle Héry Leclerc. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Angèle Héry Leclerc.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, on vous doit des épisodes des séries Julie Lescaut, Boulevard du Palais ou encore Diane Funflick, mais vous êtes surtout la co-créatrice d'une série unique, singulière sur France 2, ça s'appelle L'Art du Crime, série produite par Gaumont Télévisions et le producteur est avec nous. Bonjour Arnaud de Crémier.
Bonjour.
Votre actu, c'est la saison 5 de cette série sur France 2. Ça démarre ce soir à 21h, il y aura l'épisode En cœur de pierre et puis deuxième épisode lundi, nous serons le 29 avec Le Code de la Croix. L'an passé, la saison 4 avait cartonné, en moyenne 5 millions de téléspectateurs et presque 20% de part d'audience, 19,3% si on veut être très 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 précis. Arnaud de Crémier, avant qu'on parle de cette nouvelle saison, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi la série est différente de toutes les autres séries policières ?
Bah, tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans le milieu de l'art, qu'en plus de nous raconter une enquête policière, elle nous invite dans des lieux inexplorés que sont les musées et elle nous invite aussi à la découverte des peintres de notre patrimoine.
Et en quoi l'histoire de l'art a à voir avec une énigme policière ?
Alors ça, c'est une bonne question. J'ai envie de laisser cette question
la
au scénariste parce qu'effectivement,
parce que c'est vous
elle est compliquée.
Qui avez l'idée.
Oui, parce que l'idée, elle est partie de là. En vérité, on se disait que voilà, les tableaux, quand on les regarde, c'est un ensemble de détails qu'on a envie de décrypter, qu'on a envie d'expliquer. Et on s'est dit, ça ressemble à des enquêtes policières. C'est-à-dire que les historiens de l'art, en fait, c'est des enquêteurs. Mmh. C'est des enquêteurs, ils mènent les enquêtes sur les tableaux, ils mènent les enquêtes sur les peintres. Et on s'est dit que si on avait des enquêtes d'un côté et des enquêtes de l'autre, on pouvait créer un duo d'enquêteurs avec un flic d'un côté, une historienne de l'art de l'autre, et que ça fonctionnerait.
Vous venez de me décrire vos deux personnages, qui sont justement Antoine Verlet, incarné par Nicolas Gobbe, et Florence Chassagne, incarné par Eleanor Bernheim. Vous les avez pensés, vous les avez construits comment ?
On les a construits, alors évidemment qu'il nous fallait cette historienne de l'art, hein, qui est une passionnée d'art et une passionnée des enquêtes. Et il nous fallait aussi un personnage qui soit nous. C'est-à-dire qu'ils n'y connaissent absolument rien en art.
Je vous interromps, je veux dire, Télé-Loisirs, salut la performance de la série, Télé-Loisirs dit « L'art du crime divertit et décomplexe les quiches en art ». Vous êtes deux quiches en art ?
Moi, je suis une grosse quiche en art. Ouais. Ouais. Je dois dire que le plaisir que j'ai à découvrir les scénarios au fur et à mesure de l'écriture de Pierre-Yves Morat et Angèle Héry Leclerc, on apprend en fait... beaucoup, beaucoup de choses et de manière ludique sans jamais vraiment s'en rendre compte. Mmh. Et c'est ça, je crois, une des clés aussi d'entrée, ce qu'on revendique dans cette série, c'est de sortir plus intelligent qu'on ne l'était sans s'en être rendu compte.
Oui, je n'ai pas cité le co-créateur de la série, Pierre-Yves Morat, que vous venez de citer, vous avez
important.
Bien eu raison.
Mmh.
On va parler de la saison 5, l'épisode de ce soir donc sera à 21h, il s'intitule Un cœur de pierre. On va d'abord entendre la bande-annonce et puis nous en parler. Bande-annonce.
C'était une collectionneuse ?
Oui, c'était une spécialiste de Camille Claudel.
Les affaires d'homicide, c'est pas vraiment votre truc. Vous êtes bon pour courir après les voleurs de sacristie. Mais bon, dès que ça devient un petit peu sérieux...
Je suis sûre que le mobile du meurtre est relié à Camille Claudel.
Attendez, vous voulez dire que le tueur s'en est pas pris à Béchu parce qu'elle était riche, mais parce que c'était une collectionneuse de Camille Claudel ?
Exactement, c'est exactement ce que je veux dire.
Ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble ?
On dirait un vieux couple.
Oh. Ah bah non, en fait, il est pas si vieux que ça, leur petit couple.
Pour un baiser de filature, ils font ça bien, non ?
Elle a l'art, il a la manière. L'art du crime, nouvelle saison inédite, à 21h05 sur France 2.
Alors, Angèle Héry Leclerc, comme c'est vous qui l'avez imaginé, c'est à vous de résumer l'intrigue de ce soir.
C'est compliqué parce qu'on est déjà dans l'écriture de la saison suivante.
Ouais.
Et que moi, j'ai déjà d'autres histoires.
J'ai
en fait.
Pris des notes. Si vous avez perdu, j'ai pris des notes.
Bien sûr, c'est Camille Claudel. On avait envie de faire une série sur la sculpture et aussi sur une femme. Et donc, en fait, ça commence avec le meurtre d'une collectionneuse, de Camille Claudel. Et ce qui se passe, c'est qu'on a volé une sculpture chez elle qui s'appelle L'Implorante. Et si on peut penser qu'on a volé cette sculpture uniquement pour sa valeur marchande, en vérité, on va s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué que ça et que ça a à voir avec Camille Claudel. Et comme toujours dans l'art du crime, il faut se plonger dans l'œuvre de l'artiste pour trouver qui est le meurtrier. C'est le jeu ludique qu'on essaie d'exploiter à chaque fois.
Il faut se plonger aussi dans les névroses des peintres, en l'occurrence celle de Claudel. C'est un épisode qui est autour de l'amour et de l'amour déçu.
Donc, racontez pas tout, il y a une enquête policière qui va arriver, il y a peut-être une enquête amoureuse, perspective, on parle de l'art du crime, Culture Média continue tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On parle de l'art du crime, c'est ce soir, premier épisode de la 5e saison sur France 2 à 21h, ça s'appelle Un cœur de pierre. C'est au tour de Camille Claudel. Nous sommes avec Angèle, Héry Leclerc et Arnaud de Crémier. Arnaud de Crémier, vous êtes le producteur. Angèle, Héry Leclerc, vous êtes la scénariste et cofondatrice de cette série. Je voulais parler de ce qui va se passer ce soir. Je me dis quand même, j'ai rarement vu d'histoire pareille. Donc il y a un personnage, Antoine Verlet, il va bientôt se marier. Sa future femme fait une soirée pour lui présenter sa collègue Nathalie, très importante pour elle. Elle est incarnée par Barbara Schulz et les procureurs. Elle débarque. Non seulement, et il faut une petite fête, non seulement elle est au courant du meurtre, mais en plus, elle en sait plus que le policier qui enquête lui-même sur ce meurtre. C'est plausible. Comment vous travaillez? Est-ce que les enquêtes policières, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie? Ou est-ce que vous prenez des libertés avec la réalité?
On essaye de prendre le moins possible de liberté avec la réalité. On essaye quand même de coller aux procédures et au travail des flics. On est en lien avec des flics, on leur demande parfois conseil. On est dans le cadre d'une co-saisine, en fait. C'est ça qu'on a voulu mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a deux services de policiers qui sont légitimes à travailler sur cette enquête, selon qu'on aborde l'enquête par l'œuvre d'art ou selon qu'on aborde l'enquête par, comme je le disais tout à l'heure, le mobile est un crime marchand, donc.
La co-saisine. On va entendre un extrait qui met ça en scène. Ça se passe au début de l'enquête, évidemment. Verlet analyse l'enquête avec Nathalie. Justement, cette femme incarnée par Barbara Schulz.
Écoute, je sais que Juliette tient beaucoup à toi, tout ça. Je respecte ça. Mais là, pour le coup, si je puis me permettre, hein, je pense que tu as tort.
Ok. Pas de problème. On verra bien.
C'est marrant quand tu souris comme ça, j'ai l'impression que tu me prends un peu pour un con.
Non, je suis désolée, non, je voulais pas être désagréable, mais c'est juste que je sais que j'ai raison. Et quand je sais que j'ai raison, bah oui, j'ai du mal à le cacher. Mmh.
Alors, ça tombe mal parce que là, pour le coup, je pense aussi que j'ai raison.
Et là, on est dans le dialogue homme-femme pur, et ensuite, il propose un pari. C'est possible, ce pari? Vous vous souvenez du pari ou pas?
Oui, je m'en souviens, je l'ai écrit. Mais oui, mais notre but, c'est de quoi?
Est-ce qu'on fait des paris? Il dit...
Ça, dans le privé, ce qu'ils font, j'en sais rien.
Non, il y en a une qui voit un coupable. Elle lui dit, si ce type-là est coupable, je dirais que c'est toi. Sinon, bref, je peux pas raconter les clauses du pari, parce que je vais spoiler. Mmh. On se fait pas des paris à l'intérieur d'équipes de policiers aussi?
C'est pas officiel, mais après tout, ils peuvent faire des paris autant qu'ils veulent. Dans le privé, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils font dans le privé.
Et la garde à vue? Barbara Schulz, elle s'assoit sur la table. Il y a un type qui passe en garde à vue. Elle s'assoit sur la table pour l'interroger. On n'y croit pas.
Elle est super.
Elle le tutoie. Le gars, mais quand même, je vous dis, le gars donne son alibi. Elle lui dit, et mon cul, c'est du poulet. C'est comme ça, les gardes à vue?
Non, peut-être qu'ils sont un peu moins fous que nous. Nous, on voulait mettre du conflit entre deux personnages. Évidemment qu'on en a fait un western. Enfin, je veux dire. Voilà.
Très très belles images tournées dans le musée Rodin, là en l'occurrence. Un autre Crémier, c'est difficile d'avoir des autorisations pour tourner là-bas, ou est-ce qu'il suffit de faire un chèque et on est là Gaumont et c'est bon?
Tout est une histoire d'argent, évidemment. Non,
c'est vrai ou pas?
Non, bien sûr que non.
Il y a des gens qui nous écoutent et qui prennent les choses au premier degré, alors, et ils n'ont pas tort.
C'est pas une histoire d'argent, c'est surtout une histoire de confiance. En fait, on a démarré notre collaboration avec les musées dès la première saison, notamment, enfin avec le Louvre, tout simplement. Mm-hmm. Le Louvre qui nous accueille maintenant systématiquement à chaque saison. Et au départ, c'était compliqué parce que il faut expliquer notre intention, ce qu'on veut faire. Enfin, c'est pas tout à fait évident, hein, de faire un polar dans le milieu de l'art et surtout des crimes associés à l'art. Et en fait, les portes s'ouvrent de plus en plus facilement aujourd'hui. Je me souviens que quand on a voulu faire pour la saison 4 un épisode autour du Moulin Rouge, on a reçu un email du gérant. Et la personne nous a dit mais évidemment, venez, on adore la série. Donc maintenant, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est accueillis les bras ouverts par les organisateurs.
Pourquoi le personnage Angèle-Héry Leclerc de Camille Claudel vous a intéressé? Vous allez me dire, c'est parce que son histoire télescope celle de vos personnages et une histoire d'amour déçu.
Oh oui, c'est évident qu'on avait ça en tête, mais vraiment, on voulait partir dans la sculpture et on voulait vraiment faire une artiste femme. Et Camille Claudel, c'est celle qui s'est imposée à notre esprit tout de suite. C'est une immense artiste, son histoire est tellement touchante, on avait tout en main pour faire vraiment une belle histoire autour de cette artiste, vraiment.
Et vous inventez même des rencontres imaginaires et anachroniques. Sur la scène du crime, il y a un dialogue entre l'héroïne, donc Florence Chassagne, et Camille Claudel, qui vient s'asseoir à côté d'elle. Au passage, c'est facile à reconnaître, la flic dit « vous » et Camille Claudel lui dit « tu ».
Alors le capitaine Verlet va se marier. C'est dur d'oublier quand on a tant aimé.
Vous, c'est Rodin qui vous a délaissé. Mais vous, vous avez fini par comprendre qu'il quitterait jamais sa compagne. Cet implorant à genoux sur le point de tomber. C'est vous ?
C'est vous ? C'est toi ? Moi, j'ai essayé, moi. J'ai essayé de me relever, je me suis noyée dans le travail. Ça, c'est moi, ça. Ça aussi, c'est moi. Ça, tout ce que tu regardes, c'est moi, ça.
Mais vous avez fait des crises de paranoïa. On a fini par vous enfermer à l'asile. Alors non, 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 il n'est pas question que ça m'arrive.
Ouais, tout ce qu'a raconté sur Camille Claudel est exact. Ouais. Bon, je dis ça, s'il y a des gens qui veulent faire une fac d'histoire de l'art, comme ça, ils peuvent regarder la série. Blague à part, vous autorisez plein de liberté.
Quand je fais apparaître Camille Claudel pour Florence... Mais ça, c'est un principe qu'on a depuis le début de la série. C'est-à-dire que notre historienne de l'art, elle est assez fantasque. Et elle a des amis imaginaires, comme ça, à qui elle parle depuis qu'elle est toute petite, à qui elle confie ses souffrances, ses douleurs, et ce sont les artistes. Et donc, quand ils viennent à côté d'elle, comme ça, en fait, c'est elle qui leur parle.
Je ne vais pas tout raconter, mais il y a des histoires d'amour ensuite, et après, je ne peux pas spoiler, je suis obligé de me taire
oui,
là-dessus.
Oui, oui.
Le deuxième épisode sera le Code de la Croix. Vous pouvez le résumer d'un mot ?
Le Code de la Croix, c'est un meurtre qui a lieu au Louvre. Et il se trouve que le seul témoin de ce meurtre est un petit garçon qu'on va suivre pendant tout l'épisode et qui a la particularité d'avoir... Il n'oublie rien, en fait. Il est hyper mnémonique. Et donc, c'est avec lui que les policiers vont finir par résoudre l'enquête policière.
C'est autour du tableau « La liberté guidant le peuple » avec Mathieu Madénian en guest. Juste un mot, Antoine Verlet, il enquête au sein de l'OCBC. Ça existe pour de vrai ?
L'OCBC, ça existe pour de vrai. Vous me demandiez tout à l'heure si je prends des licences avec la réalité. La seule licence qu'on prend, c'est que l'OCBC, normalement, ne traite pas d'affaires.
C'est quoi l'OCBC ?
Alors, c'est l'Office culturel de... Oh là là, aussi.
Centrale de lutte contre
bien sûr.
Le trafic des biens culturels.
Ils vont m'assassiner quand ils vont savoir que je ne suis pas capable de...
Et ils sont basés à Nanterre.
Voilà, ils
et
sont
on
basés
est en
à Nanterre,
lien avec eux. Ils sont même venus nous rendre visite.
Ouais. Donc, ce sont eux qui enquêtent sur les œuvres d'art et leur travail est hyper important.
La saison 6, c'est déjà lancé.
Elle est lancée, elle est en train d'être écrite, bien sûr.
Ouais. Je vais citer quand même, j'ai trouvé cette confidence de la directrice de la fiction française de France Télé, Anne Holmes, dans Télé Loisirs cette semaine. Elle dit « Je renouvelle l'art du crime sans attendre les audiences ».
Bah merci.
Voilà. Donc vous lancez la saison 6 et ça va, vous savez sur quoi vous allez partir, j'imagine.
On est déjà parti dessus. Oui,
voilà, et ça va parler de quoi ?
De peintre.
Merci, merci beaucoup. Merci pour ce jeu ludique. Merci Angèle, Héry, Leclerc et Arnaud de Crémier. Je rappelle, la saison 5 de l'art du crime, c'est ce soir à 21h sur France 2, deuxième épisode lundi prochain. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet samedi soir. Il voulait regarder du rugby sur la 2, mais il a vu de la politique. Et puis notre invité, c'est l'humoriste iconoclaste, le mot est faible, Jérémy Ferrari. Son nouveau one-man show attaque le système de santé français et pas seulement. Il s'appelle Anesthésie Générale. Tout est drôle et tout est vrai. Et puis dans les indispensables, Caroline Speller va nous parler d'un manga coréen terrifiant. Et puis Stéphanie Loire nous présente 3 nouveaux singles. L'humoriste, imitateur, Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. A tout de suite sur Europe 1.